passage que nous avons déjà vu dans les mois passés, mais dans Philippiens, où l'apôtre Paul prie pour les Philippiens, et je crois que c'est les contenus des prières de Paul sont des sujets de prière pour nous aussi, parce que c'est l'exemple que Dieu nous a laissé pour que nous l'imitions, hein, c'est ce que la parole nous dit aussi, donc nous pouvons nous inspirer et puis nous en servir comme modèle aussi pour nous guider dans notre temps de prière. Donc Philippiens chapitre 1, et je vais lire au verset 8, Philippiens 1 verset 8, là. Il dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà le contenu de sa prière pour les Philippiens. Et ce qu'il demande, c'est qu'il, on le voit ici, hein, c'est que leur amour augmente afin qu'ils puissent avoir du discernement dans les choses les meilleures. Donc il prie pour qu'ils puissent soient capables de discerner, que l'Église de Philippe soit capable de discerner. Et en ce début d'année, on peut prier le Seigneur pour que notre assemblée, notre Église aussi, exerce un discernement. Discerner, c'est apprécier, c'est approuver, éprouver, examiner, sonder les choses. Et il est important pour le croyant, chaque croyant, de pouvoir examiner toutes choses, mettre les choses à l'épreuve, reconnaître comme véritable après un examen, juger digne, approuver, juger bon, tout ça, ça rentre dans le sens ici. Et on peut noter que l'apôtre Paul ne prie pas pour que les croyants discernent simplement, mais pour qu'ils discernent les choses les meilleures. Donc c'est pas juste discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est déjà une bonne chose, mais c'est distinguer entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. C'est-à-dire que entre le mal et le bien, ça va de soi, pas toujours, mais en tout cas, on peut comprendre cela, mais entre le bien et le meilleur, c'est souvent plus difficile. Et c'est ce qu'il prie ici pour cette Église. Le croyant, l'Église de Dieu ne doit pas simplement être capable de discerner juste ça c'est bien, ça c'est mal, de manière, on veut dire, brute, grossière, mais elle doit pouvoir aussi faire des choix entre le bien et ce qui est le meilleur, en tant qu'individuellement, dans la vie individuelle de chacun, mais aussi en tant qu'Église. Alors, on peut voir que c'est quelque chose qui est important ici, parce que l'apôtre Paul en fait un sujet de prière, et donc nous pouvons faire aussi un sujet de prière pour cela. Il dit, je demande ceci dans mes prières, d'autres traductions disent ça, je demande ceci dans mes prières. Et donc ça attire l'attention sur le contenu de sa prière. Le contenu de sa prière, c'est un discernement qui vient au moyen de l'amour ici. On voit que c'est important parce que l'Écriture ailleurs nous exhorte aussi à ce discernement. Je lis quelques versets. Hein. Romains 12, verset 2 dit par exemple, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, hein, Romains 12, 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc voilà ici l'invitation au discernement. Et puis Éphésiens 5, versets 8 à 11, dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Examinez, c'est le même mot que discerner ici, hein, c'est le même mot dans la langue originale. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc exercez un discernement aussi dans ces choses-là. On voit donc l'importance aussi par les effets que cela a dans la vie du croyant. L'apôtre Paul dit, dans ce passage, hein, il dit que votre amour augmente de plus en plus en saine intelligence, en pleine intelligence et en connaissance pour le discernement des choses les meilleures, afin que, hein, qu'il y ait un résultat qui est attendu, hein, afin que vous soyez purs et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice et par Jésus-Christ, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc il y a des choses là, pures, irréprochables, remplies du fruit de justice, qui sont les conséquences, en fait, de cet exercice du discernement qui vient par l'amour. Donc c'est important donc de considérer cela. On grandit, on croit dans la grâce, hein, lorsque l'on exerce ce discernement. Alors, dans quel domaine, hein, apprendre à discerner les choses les meilleures? Alors, on pourrait se baser sur l'exemple de l'église de Philippe, ici, et puis chercher à savoir dans quel domaine, en lisant toute la lettre, hein, on peut trouver quelques domaines dans lesquels, certainement, ils étaient appelés à discerner les choses les meilleures. Par exemple, en Philippiens 1, versets 27 à 30, on voit que les Philippiens subissaient la souffrance, hein, dans ce passage, et peut-être à cause de leur foi ou à cause d'autres raisons. Et face à la souffrance, qu'est-ce que les réflexes naturels parfois nous poussent à faire? Eh bien, parfois, ça peut être fuir ou à nous révolter ou à faire quelque chose d'autre. Ici, le croyant, on voit dans ce que Paul dit, hein, doit chercher l'attitude qui sera la meilleure au sein même de la souffrance. Et il insiste sur la conduite au sein de la souffrance, une conduite qui est digne de l'évangile. 1:27, regardez, il dit, ici, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Oui, donc ici, il est question d'avoir une posture face à la souffrance, et il dit que ça consiste à avoir la meilleure chose, c'est d'avoir une conduite qui est digne de l'évangile, ici. On peut dire aussi, si on regarde Philippiens 2, versets 1 à 4, par exemple, hein, il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc on peut dire dans le domaine des relations les uns avec les autres, hein, on a besoin de discerner aussi les choses les meilleures. Et si vous rappelez-vous de Philippiens chapitre 4, verset 2, où il dit, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Il y avait un conflit entre ces deux sœurs dans l'Église. Et de quelle manière réagir, hein? Qu'est-ce qui est le meilleur, hein, dans cette situation? Et Paul dit, ne faites rien donc par esprit de parti. Et la tendance naturelle consiste à toujours, parfois, quand il y a des difficultés, à faire des clans. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, hein, disait l'Église de Corinthe. Et malheureusement, c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire encore aujourd'hui. On prend vite parti plutôt que de chercher quelle meilleure attitude on peut avoir, quelle attitude est une attitude digne de l'Évangile. Et on se rassemble parfois, hein, au sein même de l'Église par clans qui partagent les mêmes pensées sur certaines choses, même vision de quelque chose, etc. Il y a quelque chose qui est meilleur, dit Paul. Il dit, ne faites rien par esprit de parti, mais quoi? Donc ça c'est la meilleure. Considérez l'intérêt aussi des autres. Verset 4, hein, il dit, voilà, ça c'est meilleur que d'essayer de dire, oui, moi je te comprends, je suis avec toi, tu as raison, etc. Non, il dit apprendre à considérer aussi l'intérêt des autres. Un autre domaine, c'est le domaine des opinions aussi. Hein, chapitre 3, verset 15, il dit par exemple, ici à l'Église, nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si quelqu'un est d'un autre avis, Dieu l'éclairera là-dessus. Donc, il peut arriver des moments où on a des avis, des opinions différentes, sur les choses. Quelle est donc la meilleure manière d'agir? Et c'est vrai qu'on n'a pas tous, hein, et on n'est pas tenu d'avoir tous les mêmes avis sur tout, ni on n'a même pas non plus la même liberté à l'égard de tout. Et souvent, les églises peuvent se déchirer parfois sur des questions. Alors là, c'était par exemple dans l'église de Corinthe, vous vous rappelez, les questions de manger ou du boire. L'apôtre Paul en parle même en Romains chapitre 14. Hein, il parle de cet aspect aussi, pense manger une chose, tel autre pense manger autre chose, et donc il pouvait y avoir des différences d'opinion sur ces différentes choses. Et quel est le meilleur, comment discerner ce qui est le meilleur? L'apôtre Paul dit ici, concernant les Philippiens, verset 16, verset 15, marchons de même pas, d'accord? Marchons, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et dans l'épître aux Romains, où il traite de cette question de divergence d'opinion, il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Parfois, la meilleure chose à faire est de ne pas discuter les opinions. Alors, on ne parle pas ici de doctrine fondamentale, on parle d'opinions qu'on peut avoir sur les choses ou même sur une certaine manière de vivre la vie chrétienne. Quand on en discute au point où ça devient un cheval de bataille et qui peut engendrer une division, l'apôtre Paul dit, ne discutez pas les opinions. Hein. Tel mange des légumes, tel autre tel mange de la viande, tel autre qui est faible pense manger que des légumes. Il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et donc c'est important, la meilleure manière de faire, c'est cela. On pourrait voir encore plein d'autres domaines ici, mais une troisième question qu'on pourrait se poser, c'est comment distinguer ce qui est meilleur. Alors, on est d'accord que c'est important, on est d'accord aussi sur le fait qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels on doit exercer ce discernement, mais comment distinguer ce qui est meilleur? Peut-être le texte de Romains chapitre 14, regardez Romains chapitre 14, peut nous aider à cela. Romains 14, ici. Donc pendant qu'on dit tout cela, hein, on essaie de penser comment on peut prier avec ces choses. Hein. Romains chapitre 14, verset 14, on peut pas tout lire. Hein. Verset 13, il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais, dit-il, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc il aborde la question ici en disant qu'il a la conviction du Seigneur, hein, que rien n'est impur en soi et que les choses sont impures, qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Et donc il dit, ce n'est pas seulement la nature de quelque chose qui doit décider si je fais le choix ou non de cette chose-là, mais c'est ce à quoi cela contribue. On est d'accord? Il dit, si tu fais ça, et après, ça va contribuer à la chute de ton frère, eh bien, tu ne fais pas bien de choisir cette chose. Et donc, c'est pas, en fait, est-ce que la chose est bonne, ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'elle est pure, ou est-ce qu'elle est impure? C'est en choisissant de la faire, qu'est-ce que j'engendre chez l'autre? C'est-à-dire que je pense, donc, forcément à l'autre dans ce que je fais. Et donc il dira au verset 19, regardez ce qu'il dit au verset 19 du chapitre 14, il dira ainsi donc, alors je lis verset 16 déjà, il dit, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Ainsi donc, sa conclusion, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Donc j'ai envie de dire, comment distinguer ce qui est, et notre question le meilleur, c'est ce qui contribue à la paix et à l'édification. Et donc, c'est cela qui est la chose la plus importante. Ce que nous recherchons le plus souvent dans une situation conflictuelle, c'est quoi? La victoire. On veut gagner, on veut avoir raison. Donc on cherche la victoire. C'est moi qui ai raison. Lui, il a tort. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est dans les conflits. Mais c'est pas ça que le chrétien doit rechercher. On veut, le discernement des choses les meilleures nous pousse à considérer ce verset et à dire que ce qui est le plus important, c'est pas la victoire, c'est la paix dans la situation. C'est pas qu'il y ait quelqu'un qui soit victorieux du conflit, mais c'est qu'on ressorte que la paix jaillisse de cette situation. Et puis, deuxièmement, l'apôtre Paul dit ce qui contribue aussi à l'édification mutuelle. Il parlera aux Corinthiens, rappelez-vous, qui étaient dans des questions de manger de viande ou ne pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, et puis ça faisait des dissensions dans l'Église à cause de cela. Il dira, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Encore une fois, la question, c'est pas est-ce que je peux la faire, mais est-ce que c'est utile, est-ce que cela édifie mon frère. L'apôtre Paul dit, moi je mange de la viande, je ne mange pas de la viande, il dit ça ne me rapproche pas de Christ, et ça ne m'éloigne pas de Christ. Mais il dit, mais par amour pour mon frère, je ne mangerai pas de viande. D'accord. Mais ce n'est pas qu'il croit que la viande, le fait d'en manger fait quelque chose ou pas, c'est simplement parce qu'il cherche d'abord l'intérêt de son frère, et donc son édification, sa croissance. Et donc les choses les meilleures sont celles qui sont spirituellement profitables, celles qui font tendre vers la paix, et celles qui contribuent à l'édification les uns des autres. Et donc on peut prier cela pour notre Église ce soir, que Dieu nous donne d'être de ceux qui sont des artisans de paix, qui cherchent l'édification les uns des autres. Soucieux non pas de gagner dans quelque chose, mais de gagner les autres à Christ et à la croissance dans leur vie chrétienne. Je continue un tout petit peu et puis ensuite on va prier ici. Donc, quel est le moyen d'atteindre ce discernement? Je crois que le verset de Philippiens nous le dit. L'apôtre Paul dit, ce que je demande dans mes prières pour vous, c'est quoi? C'est que votre amour augmente de plus en plus. Comment il dit? En connaissance et en pleine intelligence. Oui, afin... Pour le discernement, donc on pourrait dire afin que vous discerniez pour le discernement des choses. Donc c'est-à-dire que, qu'est-ce qui va amener à ce discernement? Est-ce que c'est beaucoup de connaissances? Il faut la connaissance bien sûr, mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit que votre amour augmente de plus en plus. C'est l'amour qui augmente en connaissance et en pleine intelligence. C'est pas l'intelligence qui augmente. Rappelez-vous dans 1 Corinthiens 8, il dit quoi? Il dit la connaissance enfle. Mais l'amour édifie, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il prie pour que l'amour, leur amour augmente ici, en pleine, de plus en plus. Alors, l'amour, bien sûr, ici, c'est l'amour pour Dieu et aussi pour le peuple de Dieu. Hein, si on regarde tout le contexte, c'est ce qu'il écrit dans les relations avec Philippiens, c'est l'amour à la fois pour Dieu. Les deux choses sont liées. Hein, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas le frère. Hein, donc ces deux choses sont liées. Le discernement du meilleur donc sera lié à la nature de la relation que j'entretiens avec Dieu bien sûr, mais aussi avec mes frères et sœurs. Donc il y a un lien vraiment étroit entre l'amour et le discernement des choses les meilleures, et on le voit bien dans Romains qu'on a lu tout à l'heure, en Romains chapitre 14 et verset 13, je vous le lis. Où l'apôtre Paul dit « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais, dit-il, si pour un aliment ton frère est attristé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne marches plus selon l'amour. » Il dit « Si... parce que tu veux exercer ta liberté de faire quelque chose, ou ton droit de faire quelque chose, et que tu attristes ton frère, par le seul fait d'utiliser ton droit, un droit tout à fait légitime, hein, tout à fait légitime, il dit tu ne marches plus selon l'amour. C'est-à-dire, tu as oublié d'aimer, tu as mis de côté l'amour pour ton frère, et donc tu risques de causer par ton aliment, ta liberté de prendre ton aliment, pour toi c'est pas impur, tu le manges, tu le bois, etc. Il dit tu risques de causer la perte, tu causeras la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc Paul a la certitude que ce n'est pas la nature en soi de la chose qui est importante, mais il se peut qu'une chose soit impure pour quelqu'un qui la croit impure, et puis en réalité cette chose elle n'est pas impure, parce que c'est tout, mais il dit, ce qui est mal, c'est d'en user en ne considérant pas absolument l'impact que cela peut avoir sur ton frère. Donc l'amour, de plus en plus, qui grandit, c'est ce que l'apôtre Paul prie pour cette église de Philippe. Et c'est ce que nous pouvons prier aussi les uns pour les autres, que notre amour augmente de plus en plus. Il ne s'agit pas de dire, nous aimons l'église. J'aime mon frère, j'aime ma sœur. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, je ne sais pas si j'ai noté ce passage, mais il écrit aux Thessaloniciens un moment, et puis il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, 1 Thessaloniciens 4, 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est quelque chose, hein? Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour, parce que vous avez appris de Dieu, vous savez comment il faut faire. Et dans le même passage, il dit, et c'est aussi ce que vous faites. Non seulement ils l'ont appris de Dieu, ils le font. Et Paul dit, j'ai pas besoin de vous écrire là-dessus. Et puis il ajoute, même verset, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est extraordinaire ça, hein? Il dit, vous avez appris comment vous aimer de Dieu. J'ai pas besoin de vous dire ça, vous le savez. Et en plus, vous le faites. Mais il dit, ici, je vous exhorte, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et donc l'amour que l'apôtre Paul met en évidence pour les Philippiens ici, l'amour pour lequel il prie, c'est un amour qui grandit, c'est pas un amour statique. J'aime et puis après ça s'arrête là. Non, c'est quelque chose qui va se manifester de plus en plus dans leurs relations. Ils vont le problème avec Évodie et Saint-Tich doit se régler parce que l'amour sera mis en œuvre. Les différences, les divergences vont cesser parce qu'ils vont s'aimer davantage de plus en plus. Hein. Donc il est important de considérer ça. C'est pas juste de dire oui j'aime parce qu'on est chrétien, on s'aime les uns les autres. Non, il y a des choses à faire probablement pour que cet amour croisse, qu'il grandisse dans les relations que nous entretenons, la relation qu'on entretient avec Dieu, bien sûr, mais la relation que nous entretenons aussi les uns avec les autres. Bien-aimés, n'aimons pas seulement en parole, mais aussi en œuvre ou en acte, comment on dit, hein? Voilà, en action et en vérité, d'accord? Donc, c'est pas juste des mots, l'amour, ce ne sont pas que des mots, mais cela doit se voir dans la manière avec laquelle je réagis, comment je considère la personne. Hein. Qu'est-ce que je pense d'elle? Est-ce que je prie pour elle? Est-ce que je prie véritablement pour elle? Prier, c'est vraiment porter sur son cœur quelqu'un. Et quand on prie pour quelqu'un, on ne peut pas haïr cette personne. On ne peut pas haïr. Si on prie véritablement pour quelqu'un, d'accord, si on dit des mots comme ça, mais si on prie vraiment, on porte quelqu'un devant le trône de la grâce de Dieu, ce n'est pas pour dire à Dieu, frappe-le. C'est pour dire à Dieu, prends soin de lui. D'accord? Et donc c'est ça. Et quand on aimait de plus en plus, c'est prendre le temps de prier, prendre les nouvelles, téléphoner, savoir ce qui touche, hein? Vraiment se sentir concerné les uns par les autres. Et c'est ça que nous pouvons demander à Dieu pour notre Église dans cette année qui commence, qu'on puisse être soucieux du besoin les uns des autres. Mais réellement, pas simplement avec des mots, c'est facile. Hein. Et demander pardon si nous ne l'avons pas fait comme nous devrions le faire, mais surtout le faire, vraiment. Demander à Dieu de nous montrer qui on peut appeler, qui peut-être on n'a pas vu depuis longtemps. N'attendons pas que ce soit que les anciens ou les responsables qui le fassent. Nous avons toute cette responsabilité. D'accord? Et tous, nous devons demander à Dieu ce discernement-là, hein, qui consiste à manifester l'amour qui grandit les uns pour les autres. Alors, juste quelques sujets que nous pouvons prendre hein, pour notre Église. Hein. Prions donc pour ce discernement que Dieu nous donne, ce discernement pour cet amour qui augmente de plus en plus les uns pour les autres, mais aussi ce discernement dans quelques domaines. Alors j'ai noté par exemple dans la gestion de notre temps. On entend toujours hein, que on n'a pas le temps, que j'ai beaucoup de travail. Que le Seigneur nous aide vraiment à discerner ce qui est le meilleur. Peut-être qu'il y a dans notre temps des choses que nous faisons et que nous pourrions mettre de côté pour avoir du temps pour les choses qui sont les meilleures. Demandons à Dieu de nous aider de ça. Demandons à Dieu que notre amour grandisse pour lui afin que nous puissions mettre de côté les choses qui ne sont pas utiles. Que notre amour augmente les uns pour les autres afin que nous puissions mettre de côté. Quand on pense aux autres, à Dieu et notre amour grandit pour eux, il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes parce qu'on sait qu'elles vont nous prendre beaucoup de temps. Donc l'amour qui abonde toujours plus pour le Seigneur et pour les autres conduit toujours à discerner la meilleure utilisation du temps que le Seigneur nous confie. Et puis, domaine financier, puisqu'on en parle ces temps-ci, demandons à Dieu le discernement des choses les meilleures aussi, la meilleure utilisation des moyens que Dieu nous a accordés, d'accord, pour investir pleinement, généreusement dans l'œuvre et dans les besoins que le Seigneur met devant nous. Ça peut être les besoins des uns et des autres aussi que Dieu met devant nous. Donc l'amour qui abonde toujours plus pour le Seigneur et pour les autres conduit à discerner la meilleure utilisation du temps que Dieu nous confie. Dans le domaine des relations aussi, on a dit tout à l'heure, hein, de nos paroles, de nos réactions, quelle est la meilleure chose à faire, quelle est la situation. Moi, j'aime pas celui-là, je supporte pas, ou j'aime pas comme Titi, j'aime pas comme Chatouille. Demandons à Dieu comment on peut gérer le mieux possible les relations que nous entretenons les uns avec les autres et réagir d'une manière qui démontre l'amour de Dieu qui habite nos cœurs. L'amour qui abonde toujours plus pour le Seigneur et pour les autres, eh bien, conduit à discerner la meilleure réaction que nous devons avoir dans les différentes situations. Discernement dans l'évangélisation, discernement dans l'intérêt pour l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses. Peut-être que vous avez d'autres pensées hein, qui vous viennent. Vous pouvez les partager dans le temps de prière, mais que le Seigneur nous conduise, hein, comme Paul, à désirer le discernement meilleur pour chacun, mais aussi d'avoir beaucoup d'amour, hein, un amour qui grandit, un amour dynamique, on pourrait dire, et pas statique, dans nos cœurs, pour le Seigneur et les uns pour les autres. Voilà, je ne veux pas dire plus, le temps passe vite. On veut prendre quelques minutes pour prier aussi, la fin du temps pour prier. Peut-être